êtes bien sur RTL.
20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 9 novembre 1989. Berlin-Est et Berlin-Ouest se retrouvent après 28 ans de séparation. C'est la chute du mur de Berlin. Nous sommes le 9 novembre 1989 en Allemagne, à Berlin.
Bientôt un premier trou. Tout le monde se précipite pour voir de l'autre côté. Un quart d'heure après minuit, à Potsdamer Platz, cassé à coups de barre de fer, le premier bout du mur est tombé sur l'herbe. Un souvenir pour la vie.
Dans la nuit, des dizaines de milliers d'Allemands affluent vers le mur qui sépare la capitale en deux depuis plus de 28 ans. À l'est, les habitants se massent au poste de contrôle et exigent de passer à l'ouest. À 23h30, la pression est telle que les postes de passage cèdent. Deux mondes que tout oppose s'ouvrent, se retrouvent et s'étreignent. Des scènes de liesse qui marquent une date historique, celle de la réunification d'une ville éventrée et d'une gaffe qui aura tout changé. Oui, car depuis quelque temps, le rideau de fer se fissure. La Hongrie et la Tchécoslovaquie ouvrent leurs frontières. Les Allemands de l'Est manifestent et fuient en masse dans ces deux pays. Il faut donc calmer le jeu et arrêter l'hémorragie. Lors d'une conférence de presse, Günther Schabowski, porte-parole du gouvernement est-allemand, annonce en fin d'après-midi l'ouverture des frontières de la RDA.
Nous avons décidé aujourd'hui de prendre une disposition qui permet à tout citoyen de RDA de sortir du pays par les postes frontières est-allemands.
Pour la première fois, les Allemands de l'Est ont le droit de quitter leur pays librement. Pour ce faire, il faudra obtenir un simple tampon sur leur carnet bleu auprès de la police. Mais alors qu'un journaliste lui demande à quelle date cette réforme historique sera effective, Günther Schabowski hésite, bafouille et commet la bourde qui va tout précipiter.
À partir de quand? Pour autant que je sache, immédiatement, sans délai.
Berlin-Est et Berlin-Ouest, les sœurs arrachées l'une à l'autre le 13 août 1961, quand au petit matin, les habitants avaient découvert avec stupeur un mur de briques et de barbelés érigés pendant la nuit. Berlin-Est et Berlin-Ouest, qui pendant 28 ans ont grandi pour l'une sous surveillance soviétique et l'autre sous la croissance économique des pays capitalistes, vont enfin se retrouver sous les caméras du monde entier. Dans les jours qui suivront, les Berlinois démoliront en cœur et sans relâche le mur de la honte à l'aide de pioches et de marteaux, réduisant dans l'euphorie générale le symbole de la guerre froide. Trois jours plus tard, le violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch s'envolera depuis Paris pour l'Allemagne, se mêlera à la foule et offrira à Berlin la réunifiée une sarabande de Bach au pied du mur pour marquer le temps de la liberté retrouvée. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, 32 ans jour pour jour après la chute du mur de Berlin, nous revenons sur cet événement historique qui a marqué la réunification d'une ville éventrée, les retrouvailles de familles déchirées et l'effondrement des régimes communistes dans les pays de l'Europe de l'Est. C'est donc le 9 novembre 89, peu avant minuit, que les premières pierres du mur de la honte se sont écroulées dans la capitale allemande, 28 ans après sa construction. Bonsoir Jean-Christophe Buisson.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine et vous êtes auteur du livre Le siècle rouge que l'on retrouve aux éditions Perrin. On va parler de la chute du mur de Berlin, mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur le contexte historique et les raisons pour lesquelles ce mur a été érigé. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas au courant, car on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui ont entendu parler du mur, mais sans plus. Racontez-nous.
On a du mal à imaginer qu'effectivement, il y a une trentaine d'années, il était absolument impossible d'aller dans un certain nombre de pays, alors qu'aujourd'hui on voyage très, très librement dans ces pays de l'Est ou du Sud-Est de l'Europe. En fait, il faut remonter à 1945, lorsque le régime nazi s'effondre, que l'Allemagne nazie s'effondre, les alliés se partagent l'Allemagne et en particulier Berlin en plusieurs zones entre les Russes d'un côté, les Anglais, les Américains et les Français de l'autre. Et Berlin est donc partagé en quatre zones qui sont en fait deux zones, puisqu'évidemment les Anglais, les Américains et les Français sont alliés. Ils sont à l'ouest de Berlin et les Russes qui occupent l'est de Berlin. Et très vite, des tensions se font jour. On s'aperçoit que maintenant qu'on a vaincu le nazisme, eh bien les régimes communistes qui se sont installés grâce à l'armée rouge dans tout l'Est de l'Europe, y compris l'Allemagne de l'Est et Berlin-Est, sont opposés évidemment aux régimes occidentaux qui craignent que cette vague rouge ne déferle sur eux. Donc très vite, il y a un face-à-face entre ces zones d'influence et des tensions qui se font jour parce que il y a une division factuelle, formelle de Berlin en deux zones. Et ces tensions croissent de plus en plus parce que les pays occidentaux mettent le paquet, d'un point de vue notamment économique, sur Berlin qui, alors il faut le rappeler, Berlin est dans la zone de l'Allemagne de l'Est. Donc c'est une sorte d'enclave de l'Ouest à l'intérieur de cette zone. Tout autour, ce ne sont que des zones aux mains de l'Allemagne de l'Est, des soviétiques. Et donc très vite, une tension se fait jour, puisqu'on a les deux régimes face à face. Et les tensions vont croître jusque dans les années 50, 60, jusqu'à l'érection du mur de Berlin, notamment à partir du moment où les Occidentaux vont décider de remettre le Deutschmark. Et ça va créer une crise, parce que les Allemands de l'Est vont dire « Non, mais attendez, on ne peut pas mettre une monnaie qui est à vous et qui n'est pas la même que la nôtre. » Et donc, Staline va décider en 1948 d'interdire toute circulation des hommes et des marchandises entre ce Berlin-Ouest et le reste de l'Allemagne. Et donc les Alliés, pour que Berlin-Ouest ne meure pas de faim, vont faire un pont aérien pendant un an. Puis la situation va se figer, Berlin-Ouest va tenir, et au bout d'un an, on va abandonner. Et là, il y aura deux pays, RFA, République fédérale allemande, République démocratique allemande en 1949, qui vont être souveraines toutes les deux, donc un partage de fait de l'Allemagne en deux, et ce partage de fait se répercute sur Berlin, Berlin-Ouest et Berlin-Est, qui vont croître, évoluer différemment avec des régimes différents, un régime socialiste à l'Est et un régime capitaliste à l'Ouest.
Voilà, et tout ça dans un contexte de guerre froide.
Dans un contexte de guerre froide, dès 1946, Churchill a annoncé un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, il y a une Europe communiste et de l'autre côté une Europe libre et il y a des tensions qui vont se faire jour dans le monde entier et en particulier en Europe.
Donc la RFA et la RDA cristallisent en fait tout ce qui se passe, je dirais, de chaque côté, hein, finalement.
Absolument, il y a un face-à-face physique, réel.
Ça. Matérialisé.
Matérialisé, sauf qu'à l'époque on peut quand même circuler entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Les habitants de Berlin, notamment les familles, peuvent se retrouver, on a des passes journaliers, il y a beaucoup de journaliers des Ouest-Allemands qui vont travailler à l'Est et des Est-Allemands qui travaillent à l'Ouest, indépendamment de leurs convictions. Donc il y a vraiment une... Sauf que, dans les années 50-60, il y a de plus en plus d'Est-Allemands qui, compte tenu des conditions de vie des régimes communistes, se disent que c'est quand même mieux à l'Ouest. Donc il y a de plus en plus de départs définitifs, et non pas des départs journaliers. Et l'Allemagne de l'Est commence à s'inquiéter. Des centaines de milliers, pays de 17 millions d'habitants, la RDA, quand vous avez, entre 1949 et 1961, plus de 3 millions de citoyens qui s'en vont, et notamment des jeunes, qui trouvent la vie bien triste et bien totalitaire à l'Est, on commence à s'inquiéter sérieusement.
Alors, il y a Nikita Khrouchtchev, qui est le nouveau leader de l'URSS, qui va lancer un ultimatum aux Occidentaux, ça date de 1958, ils ont 6 mois pour quitter Berlin-Ouest. Donc là, c'est une forme de déclaration de guerre, quoi. Vous dégagez de Berlin-Ouest, on signe un traité de paix, et ça va régler, finalement, définitivement la question allemande.
Oui, sauf qu'évidemment, ça ne va pas être le cas, donc on continue à se tendre. Et Walter Ulbricht, pardon, qui est le leader de la RDA, le secrétaire général du Parti communiste, qui est le vrai chef d'État, insiste auprès de Khrouchtchev en disant « il n'y a qu'une solution, c'est faut fermer définitivement la frontière ».
Alors justement, on va l'écouter, ce fameux dirigeant de la RDA, on est le 15 juin 1961.
Vous dites qu'il y a des gens en Allemagne de l'Ouest qui souhaitent qu'on mobilise les ouvriers de RDA pour construire un mur. Personne n'a l'intention de construire un mur.
Sauf qu'en réalité, ça fait des années qu'ils militent pour la construction de ce mur.
Bien sûr.
Donc là, il ment.
Et il ment. Et alors, c'est très amusant. C'est vraiment le principe des romans policiers. Quelqu'un qui se dit innocent d'un crime dont personne ne sait qu'il existe.
Oui.
Parce que personne ne lui a parlé de mur. Il n'y a que lui qui parle du mur en disant qu'il ne fera pas un mur. Donc évidemment, ça met la puce à l'oreille et ça crée ce mouvement qu'on appelle le Torschlusspanik en allemand. C'est-à-dire, les gens disent, oh là là. S'il a parlé de ça, c'est qu'il y a un mur qui va être construit. Donc là, c'est 20 000 par 20 000 par semaine, 20 000 Est-Allemands qui quittent Berlin par semaine. On sent qu'il va se passer quelque chose pendant l'été 1961, que s'il a annoncé ça, en fait, il annonce effectivement qu'il va construire quelque chose qui empêche Berlin-Est et Berlin-Ouest de communiquer.
Et le 13 août 1961, l'ordre est donné, Berlin-Ouest est coupé du monde.
Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Berlin, maintenant, était coupé en deux, sans fissure. Par-dessus ces barrières, deux mondes se regardent et attendent, le cœur serré.
On se retrouve dans un instant avec Jean-Christophe Buisson. On va revenir justement sur Berlin pendant le mur et puis on va comparer ces deux mondes qui se regardaient si bien. A tout de suite pour la suite de Jour J.
Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci de nous écouter avec assiduité chaque soir entre 20h et 21h sur RTL, mais également en podcast. On l'appelle le mur de Berlin. Ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui en ont juste entendu parler. Ceux qui ont vu les images de sa chute le 9 novembre 1989 s'en souviennent tant l'événement était beau, je dirais, émouvant et historique. Vous étiez où, Jean-Christophe Buisson ?
Moi, j'étais en école de journalisme à l'époque. Et c'était bien parce qu'on devait faire dans la nuit un journal pour imaginer ce qui se passait. On écoutait la radio.
Vous étiez plongé finalement dans cette actualité incroyable. Moi, j'étais plus jeune que vous, un petit peu plus jeune que vous. J'étais devant ma télévision et j'étais marquée, effectivement, prenant la mesure de ce qui était en train de se passer, pas simplement à Berlin, je dirais, mais dans l'Europe tout entière et évidemment en Allemagne. Quelles étaient les caractéristiques de ce fameux mur qui a été érigé, non pas en une nuit, ça aura mis plus de temps, évidemment, ou plutôt, je dirais, les deux murs, en fait, en 1961.
Alors, en 1961, il y a un seul mur, mais il n'y a pas qu'un mur, effectivement. Il y a derrière ce mur qui fait un peu moins de 4 mètres de haut, il y a un no man's land qui est composé de rondes de soldats qui surveillent, une piste pour les chiens, de terrain miné, de ce qu'on appelle de dents dragon, cette espèce de pilier de fil barbelé. Bah, ça dure pendant des centaines de mètres. Donc la personne qui arrive à passer le mur, ensuite une dizaine d'obstacles avec des miradors tous les 100 mètres. Et à la fin, il y a encore un deuxième mur qui sera érigé un peu plus tard, côté ouest. Alors du côté ouest, on ne voyait qu'un mur. Mais on n'imaginait pas que derrière, il y avait autant d'obstacles que devait franchir quelqu'un qui éventuellement voulait s'évader. Et il y aura des tentatives d'évasion, mais il était relativement infranchissable parce que il y avait tous ces critères. Alors il y a aussi la rivière, la Spree et un autre canal qui passait dans Berlin, donc certains essayaient de s'évader par la rivière, certains ont essayé de s'évader par les airs, mais en tout cas ce mur était un obstacle définitif pour tout passage.
Armé quoi, enfin je veux dire, c'est du jour au lendemain, moi je me mets à la place des Berlinois, du jour au lendemain, avec l'érection de ce mur, on est dans un conflit qui est clairement ouvert entre l'Ouest et l'Est. Pour les Berlinois, ça correspond à quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont déchirées du jour au lendemain.
C'est un drame absolu.
Racontez-nous ce qui s'est passé.
C'est un drame absolu pour les familles parce qu'il y a des écoles tout simplement. Vous habitez dans un quartier ouest de Berlin, vous alliez à l'école à 150 mètres de l'autre côté de ce qui deviendra la Mauerstrasse, la rue du mur. C'était terminé. Vous n'alliez plus dans cette école et vous perdiez des camarades qui, eux, étaient de l'autre côté. Donc ça a été vraiment un déchirement parce que Berlin n'est pas une ville figée, c'est une ville très vivante. C'était vraiment la grande ville des années 20-30 qu'on sait, très animé. Et là, c'était vraiment la fin d'une unité urbaine, évidemment, et puis d'unité familiale, civilisationnelle.
Voilà, parce que des familles pouvaient être disséminées dans Berlin et ne se sont pas vues pendant plus de 28 ans.
Exactement, on a vu des images après 1989, des familles qui se retrouvaient, qui ne s'étaient pas vues, effectivement, depuis près de 30 ans.
Parce que l'ordre a été donné de ne jamais franchir ce mur. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a dit à la population ?
C'était très simple. Si vous tentiez de franchir ce mur, les Vopos, donc les gardes frontières, avaient le droit de vous tirer dessus. Ça a été valable jusqu'au début 1989. Ça a été aboli officieusement début 89, officiellement juin 89, mais les VOPO avaient ordre de tirer sur toute personne qui tentait de s'évader. Alors, au début, c'était un peu flou et certains, les premières évasions, certaines ont réussi, notamment au début, c'était pas encore aussi perfectionné.
Ouais.
Encore une fois, avec ces projecteurs, ces terrains minés, ces pistes de sable où la moindre trace se voyait, ces chiens qui aboyaient toute la nuit. C'était vraiment, pour tenter le coup, il fallait vraiment être très courageux ou très organisé. Beaucoup ont réussi par les tunnels. Beaucoup de tunnels ont été construits, mais c'était très compliqué parce que le sol de Berlin est très sablonneux, donc parfois il s'effondrait. Enfin, c'était vraiment un danger permanent.
Qui sont ceux qui essayaient de braver justement le mur de Berlin? Ça allait principalement de l'est à l'ouest, on est bien d'accord?
Bien sûr.
Hein, c'était les Berlinois.
C'est les Berlinois qui n'en pouvaient plus de la vie à l'est, notamment des jeunes, parce que c'était un régime totalitaire, tout simplement. C'était un régime où vous n'aviez pas la liberté de penser, vous n'aviez pas la liberté de s'exprimer, vous étiez obligé de passer par le parti pour avoir un appartement, pour avoir une voiture, pour pouvoir partir en vacances. Tout était dévoué à l'État et la RDA était vraiment l'élève modèle de l'Union soviétique, du régime stalinien, avec un chef qui s'appelait Ulbricht puis Erich Honecker, qui était vraiment inféodé à Moscou et qui était très dur, parce qu'ils étaient très durs, parce qu'ils étaient à la vitrine du socialisme, en face de la vitrine du capitalisme, et qui était Berlin-Ouest. Donc ils devaient être exemplaires.
Donc ça veut dire aussi que ces Berlinois qui se sont retrouvés à l'Est du jour au lendemain à l'après-guerre, hein, après avoir vécu aussi tous les événements qu'on a connus, se sont retrouvés du jour au lendemain sous un régime évidemment qu'ils n'avaient pas choisi, et avec une vie, et avec un train de vie qui n'était pas le même.
Oui, encore une fois, souvenons-nous, avant le nazisme, dans les années 20, Berlin, c'est la capitale de la fête.
Ouais,
c'est vraiment une ville...
Ça l'est devenu maintenant.
Et ça l'est redevenu de Soloué. Mais donc, c'est une population qui est pas du tout comme on pouvait la caricaturer, parce que c'est la capitale de la Prusse, un peu rigide. Pas du tout. Berlin, c'est vraiment une exception. Donc, du jour au lendemain, effectivement, on se retrouve avec ce régime gris qui est très bien raconté dans La vie des autres, comme des films comme La vie des autres ou Goodbye Lénine. Cette vie sous surveillance permanente, on est écouté en permanence, les murs ont des oreilles.
On est affamé.
On est affamé, souvent, en tout cas, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de plaisir, on a une propagande permanente. On n'imagine pas, effectivement, les jeunes générations aujourd'hui, parce que les régimes communistes, il y en reste 4 ou 5 dans le monde, au Vietnam, en Chine, et encore en Chine, c'est très aménagé avec le capitalisme, et la Corée du Nord. On n'imagine pas ce qu'était la vie dans ces régimes totalitaires communistes dans les années 60-70.
Alors il y en a certains qui pouvaient quand même circuler plus facilement, c'était les diplomates. Oui. Mais en 1961, il y a des contrôles est-allemands abusifs qui ont failli provoquer finalement une sorte de conflit armé.
Bien sûr, c'est des gens un petit peu zélés qui d'un seul coup ont décidé de demander leurs papiers aux diplomates américains qui voulaient passer d'ouest en est, alors que normalement il n'y avait pas à fouiller la voiture. Et donc ça s'est vraiment tendu au point que les uns et les autres ont mobilisé des chars face à face, pendant une bonne quinzaine d'heures, face à face à Berlin, on était au bord du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Vraiment, quand vous avez une trentaine de chars de chaque côté qui se font face pour une histoire de papier, on sent que c'est sérieux. Donc, tout le monde montrait un petit peu ses muscles. C'était un peu une répétition de ce que sera la crise des fusées de Cuba l'année suivante, où on montre ses muscles, puis finalement, à la fin, on redescend un petit peu en pression. Mais sur le coup, il y avait vraiment, on voit les journaux de l'époque, ils étaient très inquiets de cette idée. Et puis, on venait d'apprendre que l'Union soviétique avait la bombe nucléaire aussi. Donc on savait que le déclenchement d'une guerre entre ces deux grandes nations pouvait arriver à une catastrophe nucléaire.
Et en 1963, le 26 juin, le président américain John Fitzgerald Kennedy, en visite en Allemagne, prend la parole sur la place de la mairie.
Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de cette ville de Berlin. Et pour cette raison, en ma qualité d'homme libre, je dis, je suis un Berlinois.
Jean-Christophe Buisson, Ich bin ein Berliner, voilà des mots qui soulignent en fait l'engagement américain en faveur de Berlin. Avant-poste de l'Occident, d'un côté, et du capitalisme au bloc, évidemment, soviétique communiste.
Alors c'est très drôle parce que ce discours, un discours fondateur, on estime que c'est un des meilleurs discours de Kennedy et qui est un discours très engagé.
Ouais.
Alors qu'il n'est pas habitué, depuis qu'il a pris le pouvoir, justement, à être un discours aussi violemment anticommuniste, aussi engagé. Sauf que sur le moment, ce discours a fait sourire beaucoup de gens. Parce que, en fait, Ich bin ein Berliner, ça ne veut pas dire je suis berlinois. Ça veut dire je suis un beignet à la confiture. C'est comme s'il avait dit je suis un Paris-Brest. Parce que le Ein, il aurait dû dire ich bin Berliner, comme on dit, ich bin Dresdner, je suis un habitant de Dresde. Et le Ein fait que c'est un Berliner, c'est un beignet à la confiture. Alors il y a deux, trois personnes qui ont souri autour de lui, le public, mais on a bien compris ce qu'il voulait dire par là. C'est je suis solidaire du peuple de Berlin. Mais bon, c'est sûr que si on traduit je suis un beignet à la confiture, ça a tout de suite moins d'impact sur l'histoire du monde.
En tout cas, on aura compris ce qu'il voulait dire à travers
Absolument.
Ça. 2 ans avant la chute du mur de Berlin, c'est Ronald Reagan, porte de Brandebourg à Berlin, justement, qui somme le secrétaire général de l'URSS d'abattre ce que l'on appelait du côté de l'Ouest le mur de la honte.
Mr. Gorbatchev, tear down this wall.
Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. Hein. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Jean-Christophe Buisson, revenir sur la chute du mur de Berlin et de tout ce qu'on aura fait, évidemment, après pour réunifier non seulement Berlin, mais l'Allemagne tout entière. À tout de suite.
20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit en cet anniversaire de la chute du mur de Berlin. Dans la dernière partie des années 80, l'économie du bloc de l'Est est en souffrance. Mikhaïl Gorbatchev décide de réformer la politique de l'URSS et de relâcher la pression sur les pays du bloc de l'Est. Alors pour la faire courte, si des communistes ne sont pas élus dans ces pays, eh bien il n'y aura pas de recours à la force pour les contraindre. Bilan, la Hongrie est le premier pays à ouvrir ses frontières en septembre 89. La Tchécoslovaquie, lui, emboîte le pas. C'est le début de l'effondrement du bloc de l'Est. Jean-Christophe Buisson, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. En fait, ces événements, ils sont annonciateurs de la chute du mur de Berlin.
Bien sûr, ce sont ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles. L'autre grand signal étant Solidarność qui est accepté en Pologne, enfin, qui est reconnu en Pologne. On sent bien par ce genre de détails que ce monde, ce bloc de l'Est est en train de s'effriter. Il s'effondre sur lui-même parce qu'encore une fois, l'initiative vient de Gorbatchev, donc de Moscou, donc du grand patron, celui qui, en 68, avait ordonné l'intervention de Tchécoslovaquie, en 56 à Prague, en 53 à Berlin-Est, justement, lorsqu'il y avait une manifestation d'ouvriers qui avait été réprimée avec l'aide de l'armée rouge. Et là, si Moscou n'aide plus, ça devient très compliqué. Et à la tête de l'Allemagne de l'Est, à ce moment-là, c'est Erich Honecker, qui était le patron de la sécurité de Berlin-Est en 61, donc c'est lui qui était chargé de faire l'érection du mur de Berlin et qui, lui, est un vrai communiste à l'ancienne. Il a presque 80 ans. Il n'y a aucun de ces discours qui ne reprend le mot perestroïka ou glasnost, qui sont les mots de Gorbatchev, de reconstruction, de transparence, les mots-clés qui laissent penser qu'il est en train de réformer ce système. Lui, il ne veut pas en entendre parler. C'est vraiment dur de dur. Donc, il est hors de question de faire comme la Pologne, comme l'Hongrie qui vient d'ouvrir sa frontière avec l'Autriche ou comme la Tchécoslovaquie. On sent que lui, il va être dans le dur.
Alors, voici ce que l'on entendait le 10 novembre, malgré tout, à 5h du matin sur RTL.
Après 28 ans, le mur de Berlin est ouvert. Le rideau de fer déchiré, c'est historique. Toute la nuit, dans une ambiance folle, Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest ont circulé librement de part et d'autre de Checkpoint Charlie. C'est l'un des points de passage du rideau de fer.
Cette nuit-là, parce qu'évidemment, bon, on a eu le début de l'effondrement du mur de Berlin, mais cette nuit-là, Helmut Kohl, le chancelier allemand, il est en voyage en Pologne et il n'est pas surpris du tout.
Non, il n'est pas surpris parce qu'il a de la même façon des signes annonciateurs. Lui, il est au courant, par exemple, que depuis 2 semaines, il y a des grandes manifestations qui ont lieu à Leipzig, notamment, mais même à Berlin-Est, qui demandent une réforme du régime. Depuis plusieurs semaines, le fameux Erich Honecker, dont je parlais tout à l'heure, a été éjecté. On a à la place un autre apparatchik un peu moins dur qui s'appelle Krenz, qui a pris sa place. Mais le système demeure, ils sont complètement dans l'affolement et ils sentent bien qu'ils ne peuvent plus réprimer comme autrefois. Tous les lundis soir, il y a des grandes manifestations, encore une fois, avec notamment les églises protestantes qui sont à la pointe du combat. Et donc, Helmut Kohl est au courant, suit ça de très près. Et ils sont encore en même temps en train de s'inquiéter en Allemagne de l'Ouest. Parce que, évidemment, tout le monde rêve que l'Allemagne de l'Est soit libérée du communisme. Mais en même temps, ils sont en train de se dire, oh là là, mais si ça s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? On fait une Allemagne. François Mitterrand, par exemple, en France, lui est très inquiet à l'idée que si l'Allemagne de l'Est s'effondre et qu'il y a une réunification allemande, c'est à nouveau peut-être un quatrième Reich qui va arriver. Plusieurs pays commencent à avoir très peur. Et donc, Helmut Kohl ne pousse pas vraiment. Finalement, ce mur, il arrangeait un petit peu tout le monde pendant. Il symbolisait, c'était atroce pour les Berlinois, c'était atroce pour les Allemands de se savoir partagé en deux. Mais ça gelait, ça fixait dans l'espace.
On contrôlait la situation tant qu'il était là.
Exactement. Alors, et là, on se dit, On ne sait pas de quoi demain sera fait si le mur s'effondre.
Alors, le mur s'effondre et le 22 décembre 1989, Helmut Kohl s'adresse au Premier ministre de la RDA, ministre éclair, effectivement, hein, Egon Krenz, et l'enjoint à travailler de concert pour une Allemagne réunifiée.
Monsieur le Premier ministre, nous avons, au cours d'une suite de conversations très denses, convenu de faire ce que cette heure historique rend désormais possible. Les améliorations qu'il faut apporter aux hommes des deux parties de l'Allemagne. Ici, devant la porte de Brandebourg, je voudrais lancer un appel à nos amis, à nos partenaires et voisins, de l'Est comme de l'Ouest. C'est de cette place que part le message de la RDA et celui de la République fédérale d'Allemagne. Nous voulons la paix, nous voulons la liberté, nous voulons apporter notre contribution à la paix en Europe et dans le monde.
Voilà, on l'a gardé assez long parce que c'est vraiment un discours historique et c'est maintenant qu'est-ce qu'on va faire quoi, hein. Donc il va falloir travailler conjointement. Comment est-ce qu'ils ont fait justement pour travailler de pair et pouvoir réunifier l'Allemagne? D'ailleurs, ils ont avancé hein, les élections.
Ils ont avancé absolument en mars 1990, très vite, des élections qui ont donné une large victoire au CDU, c'est-à-dire aux démocrates chrétiens allemands, donc le parti d'Helmut Kohl, l'ancien parti communiste qui a changé de nom fait moins de 10%. Donc on voit bien que les Est-Allemands sont libérés. Ils se sentent libérés. Sauf qu'on ne sait pas très bien à quelle sauce ils vont être mangés. Et je pense qu'Helmut Kohl, à l'époque, lui-même ne sait pas très bien ce qui va se passer. Que la seule solution, ça sera vraiment une sorte d'absorption. Mais il va falloir le faire quand même discrètement parce que, effectivement, on ne peut pas transformer du jour au lendemain une économie socialiste en l'économie allemande qui elle est conquérante et l'Allemagne de l'Ouest c'est le miracle allemand depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment on va marier ces deux économies sans écraser totalement l'Allemagne de l'Est?
Eh bien, on se retrouve dans un instant pour en parler. À tout de suite dans Jour J.
20h, 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre fidélité, votre écoute assidue à Jour J qui chaque jour nous permet de nous souvenir et d'apprendre des événements passés. La chute du mur de Berlin aura été aussi celle du bloc de l'Est en novembre 1989. Une nouvelle Allemagne réunifiée, c'est magnifique, mais ce sont avant tout deux Allemagnes qui ont vécu de façon tout à fait opposée pendant près de 30 ans. L'une sous la bannière soviétique, l'autre dans la vitrine capitaliste, l'une terne et pauvre, l'autre moderne et riche pour caricaturer Christophe Buisson, passer l'euphorie de la chute du mur. Parce que, alors c'est vrai, on n'est pas revenu là-dessus, mais les jours qui ont suivi la chute du mur, ça a été absolument incroyable.
Oui, c'est des
Ce sont des scènes de liesse, d'amour, il n'y a plus question d'argent, les Berlinois se retrouvent, font la fête, l'Est arrive principalement à l'Ouest, hein, évidemment. Il y a des scènes complètement hallucinantes où on voit les Berlinois de l'Est découvrir ce qu'il y avait derrière ce fameux mur et peut-être prendre encore plus la mesure de l'enfer qu'ils avaient vécu.
Bien sûr, mais dans les deux cas, les Ouest-Allemands découvraient à quoi ressemblait
ce qui se passait à côté.
À l'Est et beaucoup de familles se sont retrouvées. C'était vraiment des retrouvailles, c'était une grande fête. Le problème, c'est qu'après toutes les fêtes, quand on boit trop, on a souvent la gueule de bois. Ouais. Et la gueule de bois est arrivée assez vite, parce que très vite, on s'est retrouvé effectivement avec ces deux économies qui n'ont rien à voir, ces deux systèmes sociaux, politiques, administratifs qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vous ont mis en prison? Parce que la Stasi, c'était des dizaines de milliers de gens qui travaillaient pour la Stasi. Les archives brûlaient allègrement, mais enfin, on en a retrouvé quelques-unes. Tout le monde, à un moment donné, avait dénoncer son voisin, donc il y avait un phénomène de suspicion généralisée. Donc c'était les mois suivants étaient très compliqués à gérer. Et Helmut Kohl s'est vraiment très très bien débrouillé. Il y avait un représentant de la CDU qui s'appelle Lothar de Maizière qui est devenu justement le premier ministre de l'Allemagne de l'Est avant la réunification en octobre 1990, qui essayait justement d'être le relais de Helmut Kohl pour faire passer des pilules qui allaient être compliquées. C'est, à un moment donné, on faisait semblant de payer des gens qui faisaient semblant de travailler parce que il n'y avait pas d'économie libérale, évidemment, dans l'Allemagne de l'Est. Donc, on travaillait pour l'État. Il n'y avait plus. Et l'État, c'était terminé. Cet État-là, c'était terminé. Donc, les gens, ils allaient travailler, mais qui allait
pour
être leur patron, combien ils allaient être payés, les assurances sociales, etc. Donc, il y avait tout un système à mettre en place. C'était très compliqué. Ça a été admirablement fait avec l'idée, comme il y a d'une certaine manière pour les diasporas, l'Allemagne de l'Ouest a donné beaucoup d'argent à l'Allemagne de l'Est,
a absorbé et investi
dans. Mais alors le problème, c'est que l'Allemagne de l'Est c'était beaucoup d'industries lourdes, d'industries des mines, C'était justement, on était en train de changer d'économie à cette époque. Début des années 90, on est en train de se rendre compte qu'on passe à une économie de service. Et l'Allemagne était plutôt en avance là-dessus. Et là, on se retrouve à gérer un pays qui n'a que de l'industrie lourde, puisque quand on était socialiste, on était un ouvrier, c'était l'aristocrate du système socialiste. Et là, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces ouvriers? Ils vont être au chômage du jour au lendemain, donc on va les aider, mais ils ne vont pas rester au chômage 10 ans. Il va falloir qu'ils se reconvertissent. Et ça, ça a été assez admirablement réussi, même si le chômage, on le voit aujourd'hui, ouais, il a quand même perduré dans cette partie de l'Allemagne parce que tout le monde n'a pas réussi à se reconvertir.
Ça a pris combien de temps tout ça ?
Ben, je vous dis, on peut dire que c'est toujours pas fini. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple le taux de chômage dans les anciennes régions de l'Est, c'est 2 ou 3 points au-dessus de l'Allemagne
donc
de l'Ouest.
Donc il y a toujours une disparité géographique,
oui,
je dirais.
Oui, même si elle n'est pas reconnue, il y a toujours ce qu'on appelle le mur dans la tête. Il est demeuré d'une certaine manière. Et puis les économies ont changé. Vous savez, l'érection du mur de Berlin, c'est une conséquence à laquelle on ne pense jamais. C'est qu'à partir du moment où il y avait plus assez de manœuvre à l'Ouest, puisqu'en fait l'Ouest, ouais, se servait de la main-d'œuvre qui venait de l'Est, ouais, c'est à ce moment-là que les Allemands de l'Ouest ont fait venir les Turcs. Vous voyez, une des conséquences du mur de Berlin auquel on ne pense jamais, c'est l'immigration de travail turc est arrivée par l'élection du mur de Berlin parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre pour relancer l'économie de ce pays qui était quasiment rasé en 1945. Et bien là, d'une certaine manière, c'était la même chose. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens, cette main-d'œuvre, mais on n'a pas de travail à lui donner. Et pour conséquence, aujourd'hui, vous regardez par exemple les scores des nationalistes, de l'extrême droite, même des néo-nazis, ils sont les plus forts dans cette partie de l'Allemagne qui s'est sentie écrasée, à qui on n'a pas redonné sa dignité et qui est même accusée d'avoir été, d'une certaine manière, complice du régime socialiste. On dit l'Allemagne de l'Est, il y a toujours une part de mépris. En tout cas, c'est ressenti comme ça. Il y a une anecdote qui est assez terrible, c'est, vous savez, ce soldat allemand Konrad Schumann, qui passe par-dessus les barbelés au moment de l'érection du mur de Berlin. Il y a eu un petit film qui a été fait, une photo qui est très célèbre. Il est passé à l'Ouest tout de suite. Il a travaillé pendant 20 ans chez Audi. Et après la chute du mur de Berlin, il est revenu à Berlin-Est et en Allemagne de l'Est. Il a retrouvé sa famille. Il a été rejeté. Rejeté comme un traître. C'est-à-dire que les Est-Allemands, qui étaient tout contents de se débarrasser du communisme, quand même, ce type-là, qui était le premier à passer à l'Ouest, était quand même considéré comme un traître. Et il s'est pendu. Il s'est suicidé. Alors on a dit que c'est des histoires familiales, mais il revenait à l'Est, il pensait être considéré comme un héros, puisqu'il avait été le premier à lancer ce mouvement, il revient, il est considéré comme un traître. Donc il y a vraiment, entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, encore cette espèce de mur qui est resté dans la tête. Il y a une inégalité sociale qui demeure, une inégalité politique. Il est très difficile aujourd'hui de réunifier. L'Allemagne est évidemment réunie, mais elle n'est pas totalement réunie, à la vérité.
Voilà.
C'est un petit peu la même comparaison entre l'Angleterre et l'Écosse. Les Écossais seront jamais des Anglais, les Anglais jamais des Écossais. Il y a le mur d'Adrien qui reste comme ça invisible, même s'il date de 2000 ans. Mais il y a cette nuance qui demeure.
L'empreinte, hein, évidemment, de l'histoire qui est toujours là. Vous êtes venu avec... Oh mais c'est lourd, hein ? Vous êtes venu avec un pavé du mur de Berlin.
Un petit pavé, oui, oui. Bon. Dans les années 90, on pouvait acheter des morceaux du mur. Il n'y a pas de certificat d'authenticité, donc, mais je crois assez que ça symbolise très bien ce qu'était ce mur.
On se retrouve dans un instant pour parler justement de ce qu'est devenu ce fameux mur de Berlin, tout de suite.
Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Si les Berlinois ont eu à cœur de démolir le mur de Berlin pendant plusieurs jours en novembre 1989, sa déconstruction officielle, elle a commencé en juin 1990. Jean-Christophe Buisson, vous êtes venu donc avec un pavé du mur de Berlin. Il y a un petit dessin dessus. C'est...
Ouais, ça, c'est une de mes filles qui a dessiné, mais c'est pas d'origine, ça.
Voilà, parce que si je vous pose la question, c'est qu'à l'ouest, en fait, on avait beaucoup peint sur le mur de Berlin. Donc le mur de Berlin côté ouest était finalement porté, les stigmates, les traces d'une histoire, bien évidemment. Donc ce mur a été démoli en partie, on en a gardé l'équivalent d'un kilomètre du mur. Qu'est-ce qu'il est devenu ?
Il était vendu comme les appartements, vendus par morceaux.
Vous l'avez acheté, ça ?
Oui, je l'ai acheté.
D'accord.
Pas très cher.
Oui, parce qu'on a spéculé.
Il y a des morceaux qui ont été payés très très cher. Ouais. Absolument. Très vite, dès 1990, il y a une énorme vente qui est faite à Monaco.
Ouais.
Justement, il y a de morceaux du mur, de gens qui veulent acheter un morceau du mur pour mettre dans leur entreprise, comme une œuvre d'art d'une certaine manière. Et c'est vrai que côté ouest, alors tout n'était pas une œuvre d'art. Vous vous souvenez de ce concert de Rostropovitch qui était arrivé le 11 novembre 1989.
On l'a entendu interviewé en début d'émission.
Qui avait joué devant une espèce de Mickey absolument improbable et très très moche. Mais effectivement, il y a toute une partie du mur qui était, c'est un morceau d'histoire. Donc tout le monde avait envie d'avoir un morceau d'histoire. Et moi, je pense que quand j'ai acheté ça, c'est que dans ma tête, c'est ça. Je me dis, j'ai quand même un morceau d'histoire.
Bien
et
sûr.
Ce mur va disparaître. Alors aujourd'hui, il y a des traces du mur. Il y a beaucoup de plaques sur le sol. Mauerstrasse, l'ancienne rue du mur. Et c'est fascinant quand on y passe, parce qu'on se dit, il y a 30 ans, on marchait dans cette rue, selon si on était sur le trottoir de droite ou le trottoir de gauche, on était à Berlin-Est.
Et on ne se voyait pas.
Ou à Berlin-Ouest. Et il y avait un mur entre les maisons, entre les familles, entre les voisins, entre des, encore une fois, des écoliers qui se connaissaient la veille et qui ne pouvaient plus se voir.
Il y a du sang qui a été versé aussi,
bien sûr,
à l'endroit de ce mur.
Les chiffres sont très difficiles à connaître. C'est entre 200 et les associations disent plus de 1000 morts quand même pendant les évasions. En 28 ans. Et puis des morts, alors en plus, quand ils étaient tués, on cachait leur corps, on brûlait leur corps pour pas donner les raisons exactes de leur mort, c'était des disparus. Donc on saura, je pense, jamais vraiment le nombre de gens qui ont été tués par les Vaupeaux en tentant de rejoindre la liberté et de fuir la grisaille communiste.
Voilà, les Vaupeaux qui étaient donc les gardiens du mur.
C'est dans les postes de garde frontière.
Ouais. Aujourd'hui, la partie la plus importante qui reste du mur donc se trouve dans la zone appelée East Side Gallery. En décembre 2003, plus de 14 ans après sa chute, il y a un pont de 29 mètres du mur de Berlin et le terrain sur lequel il se dresse ont été vendus aux enchères pour 174 000 euros par la capitale allemande très endettée. Ça veut dire aussi que Berlin s'est refait une santé financière sur ce mur qu'il avait tant divisé.
Bien sûr, ça y est, Berlin est devenue une ville capitaliste, donc elle joue de tous les ressorts pour intégrer ce nouveau monde qui était si difficile, encore une fois, à intégrer. Mais le visage de Berlin a été modifié et paradoxalement, aujourd'hui, quand vous prenez dans l'ancien Berlin-Est, vous êtes dans une ville très moderne, parce qu'on a un peu rasé tous ces immeubles d'habitation communistes, ces HLM absolument terribles. Et Berlin-Ouest a pris du retard. Donc aujourd'hui, vous voyez une partie très, 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 très moderne. La partie moderne est à Berlin-Est et la partie qui fait un peu années 70-80 est à Berlin-Ouest. Donc c'est assez. Mais il y a toute une partie encore de Berlin-Est qui a gardé ces immeubles socialistes, cette architecture socialiste terrible.
Au-delà justement de la trace du mur, est-ce qu'il reste d'autres traces de cette période-là dans Berlin ?
Il y a des mémoriaux, il y a un musée, il y a plusieurs lieux qui justement entretiennent la mémoire. Il y a eu même un lieu qui faisait un peu polémique parce qu'on mélangeait la mémoire des victimes du nazisme et des victimes du régime socialiste. On trouvait que la comparaison n'était pas tout à fait valable. Donc oui, c'est, les Berlinois ont encore ça en tête et à voir dans leur ville ces stigmates de cette division terrible pendant près de 30 ans.
En tout cas, je vous rends votre pavé, mais je
non,
vous
ne
remercie.
Pas,
non, je vais m'abstenir. C'est lourd et c'est lourd de sens aussi. Merci de nous avoir raconté
Merci
le mur de Berlin, Jean-Christophe Buisson. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine, que vous êtes auteur du livre Le siècle rouge aux éditions Perrin et que c'est chez le même éditeur qu'on peut retrouver depuis un mois votre dernier ouvrage, Le dernier carré. Merci à vous d'avoir
Merci
accepté
infiniment.
Mon invitation. À bientôt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand.